des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, on parle de la violence du monde, comment la littérature la dit, comment elle la transforme aussi et comment cette transformation nous rend peut-être un peu plus humains, donc un peu plus forts. On parle de la violence du monde, on parle du mensonge, on parle de la manipulation et on ne se laissera pas faire avec Nina Bouraoui qui publie « Otage » au pluriel chez Lattès, un texte qui prolonge l'une de ses pièces de théâtre et qui se présente comme le monologue d'une ouvrière mère de famille sur le chemin de la révolte. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
On en parle aussi avec Fabrice Imbert qui publie « Le monde n'existe pas » chez Gallimard, un nouveau roman américain qui nous emmène dans le tourbillon d'une accusation de viol et de meurtre et au cœur de la terrible lutte qui se joue aujourd'hui entre la réalité et la fiction, entre la news et le fake. Bonjour Fabrice Imbert.
Bonjour.
Alors Nina Bouraoui, vous êtes l'auteur du premier roman « La voyeuse interdite » qui avait reçu en 1991 le prix du livre Inter, de « Mes mauvaises pensées » qui avait obtenu le prix Renaudot en 2005 et de bien d'autres livres dont « Garçon manqué » où j'aime beaucoup ce titre « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Otage, au pluriel, je le disais, reprend l'une de vos pièces de théâtre. On y découvre Sylvie Meyer, elle a 53 ans, elle a deux enfants, elle travaille à la Cagex, une entreprise qui fabrique du caoutchouc. Son boulot, c'est de veiller au bon fonctionnement du matériel. Elle dirige ce qu'on appelle la section des ajustements. L'entreprise est comme une ruche, d'ailleurs, elle veille sur celle qu'elle appelle ses petites abeilles. Elle a été quittée par son mari, mais elle ne lui en veut pas, elle fait avec, c'est une bonne chef de ruche, mais il y a la crise et l'entreprise ne tourne plus comme elle tournait avant. Il faut, voilà, le mot est terrible, dégraisser. Elle se voit confier une mission préparatoire à ce dégraissage par son patron, repérer les branches mortes afin de les couper. Trahira-t-elle les branches ou plutôt ses petites abeilles? Eh bien, il va se passer quelque chose de fracassant, elle passe à l'acte, elle résiste. Une connerie, dit-elle, un petit craquage lui fait comprendre le patron. J'en dis pas plus pour le moment, en tout cas, il y a les policiers, il y a le passé qui revient, un sale souvenir. Et puis la vie d'après, pour être peut-être un peu moins otage, c'est par ce titre que je voudrais commencer, Nina Bouraoui, otage au pluriel. En quoi ce terme, dont le sens a dérivé, hein, je rappelle que c'était au départ une personne livrée ou reçue comme garantie de l'exécution d'une promesse ou d'un traité, et puis c'est devenu une personne que l'on arrête et détient comme gage pour obtenir ce que l'on exige. En quoi ce mot et ce pluriel s'est-il imposé pour le titre ? De quoi cette femme est-elle l'otage ? Et de quoi sommes-nous otages puisque c'est au pluriel ?
Oui, nous sommes tous des otages. Moi, chacun de mes romans, finalement, traite de la liberté. Est-ce que la liberté existe ou non? Et finalement, je ne pense pas qu'elle existe, puisque nous dépendons du passé de ceux qui nous ont donné la vie, nous dépendons de l'histoire d'une société, d'un pays, et nous dépendons des forces de notre inconscient. Alors oui, elle est otage d'un chagrin d'amour, parce que son mari l'a quittée. Elle est otage de la puissance d'une société qui lui demande toujours plus. Elle va être otage de son patron et elle est surtout otage de son adolescence puisque la violence qui va l'habiter, on dira pas tout, mais en tous les cas le geste transgressif qu'elle va tenter de commettre va réveiller une violence plus intime, plus profonde, plus ancienne. Parce que je pense que une agression physique, et elle a vraiment le statut
tâche,
de...
Hein, il est question d'une tâche.
Voilà, c'est cette tache de cerise sur sa robe de mariée la reconnecte à cet événement dans son adolescence qui ne s'est jamais dilué, qu'elle a renié, puisqu'au début, elle dit « je n'ai aucune expérience de la violence, ni interne ni externe », et elle a vraiment le statut des victimes. C'était ça aussi qui était intéressant. La victime se cache dans le silence, parce qu'il y a la culpabilité, il y a la honte, puisque l'agression est liée à la sexualité d'une jeune fille. Et comment
vous
cette
dites
femme...
tout, Nina Bouraoui, attention.
Mais non, je dis rien du tout. J'ai fait des espèces de cachettes.
Parce que c'est vrai que ça arrive et on comprend
parce
oui,
que
le geste.
Oui, ce qui est important, voilà, c'est un livre à la fois qui va dénoncer en effet la pression insupportable d'un patron qui lui demande d'établir des viviers, je trouve le mot atroce, mais il existe. Et elle va s'y atteler parce qu'elle
C'est un mot qui existe dans le langage de l'entreprise. Vous avez.
Oui. On me l'a
confié. Vous avez repéré ça.
Non. Moi, je ne travaille pas dans l'entreprise, mais je suis entourée d'espions qui me rapportent. Et moi, je vole. Hein, les écrivains sont là pour voler. Et c'était suite à une discussion avec ma meilleure amie qui me disait qu'il y a des viviers. Et dans les viviers, justement, on place celui qui arrive en retard, celui qui sabote, celui qui ne va pas au bout de son ambition. Et c'est de la dénonciation. Et donc, Sylvie Meyer va établir des listes très consciencieusement parce qu'elle est sérieuse
et qu'elle est proche
de Victor Andrieux, son patron. Mais pas jusqu'au bout, finalement, parce que ces abeilles, elles les protègent.
Et sur ce pluriel otage, parce que là, vous avez répondu sur votre personnage, mais vous l'avez mis au pluriel, ce terme. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que ça s'adresse aussi aux lecteurs?
Oui, parce que je crois que déjà la lecture de ce livre est une petite prise d'otage. Vous savez, moi je l'ai écrit en fin 2014. En effet, c'est le Paris des femmes qui m'avait demandé d'écrire une petite pièce pour ce festival dédié aux femmes. Et puis fin 2015, ce texte a été lu à Bonnieu chez Agnès Varda, a été lu à l'Opéra de Vichy, a été monté là à Valence, à Lyon. Et donc j'ai prolongé, et puis le texte est resté comme ça, un peu dans un tiroir, pendant quelques années. Et quand on a décidé de le publier avec mon éditrice, quand je l'ai relu, j'ai été moi-même otage parce que j'avais oublié certaines choses. Il y a des scènes où je me disais, en fait, cette violence interne, j'ai réussi à la traduire, mais finalement, Sylvie Meyer m'a un peu dépassée. Et c'est peut-être c'est l'élan aussi
du théâtre. Nous sommes tous des Sylvie Meyer.
Mais je pense que nous avons tous en nous une part de Sylvie Meyer.
Voilà, c'est bien. Donc de révolte, c'est bon signe. Fabrice Imbert, Le Monde, avec vous, il n'existe pas. En tout cas, c'est le message qu'on prend en pleine figure en saisissant votre livre, puisque c'est sur la couverture, c'est le titre. Il est publié chez Gallimard. On a quitté les rives du roman de Nina Bouraoui. On est aux États-Unis avec Adam Volman. Comme l'écrivain d'ailleurs Volman, William T. Volman, j'ai pensé à lui aussi, puisqu'il est beaucoup question d'écrivains. Vous parlez beaucoup d'autres écrivains dans ce livre. D'ailleurs, Adam adore les écrivains. C'est même à cause d'eux, qui étaient aussi journalistes, comme Orwell, comme Camus, qu'il a choisi de devenir journaliste. Quand le roman commence, on est à Times Square et on diffuse sur les écrans le portrait d'un homme qui est recherché par toutes les polices pour le meurtre de Clara Montes, une jeune Mexicaine qui l'aurait violé et tué. Qui est ce garçon? Eh bien, c'est Ethan Shaw, le seul ami qu'avait Adam 20 ans auparavant, une star au lycée de Dresden, c'est ça, dans le Colorado.
Voilà.
Une sorte de Redford jeune, je vous cite, le capitaine de l'équipe de football, le joueur de tennis le mieux classé de l'État dans sa catégorie. Et aujourd'hui, eh bien, Adam refuse d'admettre la culpabilité d'Ethan. Ça peut pas être lui, je veux dire, ça peut pas être lui. Et donc, il retourne à Dresden dans son passé. Il est aussi question du passé qui revient, de cette tâche aussi peut-être, qui ressurgit, ce passé, pour mettre à l'épreuve la réalité et le mensonge, ou plutôt la grande lutte que se joue la réalité et le mensonge. Le monde n'existe pas. Ça veut dire que nous vivons où, Fabrice Imbert?
Je me demande. Actuellement, je suis dans un studio de radio, mais disons que ça se passe aux États-Unis, puisque les États-Unis, pour beaucoup de gens, sont le pays de la fiction. Et ici, on est à l'intérieur d'abord des images, Times Square, là où le héros de l'histoire découvre cette accusation de meurtre et de viol. C'est vraiment une place complètement incroyable à New York où il n'y a plus que des images, où on a l'impression qu'il y a la dématérialisation de tout. Et on est à l'intérieur de ce monde qui n'existe pas, à l'intérieur du monde des images et du monde des fictions, qui, je crois, est pour une part toujours notre histoire, toujours l'histoire de l'humanité. Mais évidemment, on est dans un monde où tout ça s'est accru de façon complètement délirante et on peut vraiment se perdre dans le monde des images.
Au point de devoir finalement dénier à la réalité toute existence, parce que c'est aussi la leçon de son roman, en fait. La fiction a remplacé même la réalité.
Complètement, il y a un côté baroque dans le livre, au sens où, tout est un vaste théâtre et une vaste illusion. Donc le héros va effectivement s'enfoncer dans ce monde d'illusions qui est à la fois le monde actuel et le monde de son passé, parce qu'il va revenir sur son adolescence et en particulier effectivement sur ce personnage qu'il a tant fasciné dans son adolescence et qui était son héros en quelque sorte, le demi-dieu. Ouais, il dit
c'est pas un violeur, c'est un demi-dieu. Donc
voilà,
c'est pas un violeur, c'est pas possible.
Ouais. Et cette star du lycée, je crois que chacun l'a connue. Tout le monde a vu des stars dans son lycée. C'est un phénomène qui est quand même assez étonnant. Et le phénomène peut-être le plus étonnant, c'est que les stars du lycée, dans la vie adulte, ne sont plus jamais les stars. Ou en tout cas, c'est très rare.
C'est
curieux.
Il ne faut pas éclore trop tôt.
On se freine trop vite.
Et cette perception d'un monde comme illusion, comme théâtre, les baroques, par exemple, l'avaient déjà. Peut-être que la différence, la principale différence entre cette perception du monde comme théâtre, comme illusion, à l'époque baroque et à l'époque contemporaine, c'est qu'elle se fait avec violence. Et c'est aussi la leçon du livre. C'est un livre sur une autre forme de violence que celle de Nina Bouraoui.
Mais disons que je crois que chez les baroques, effectivement, il y avait cette idée que nous jouons des rôles, nous sommes dans une illusion. C'était sans doute aussi lié à une vision religieuse du monde. Mais nous, on a acquis les moyens de l'illusion généralisée. Enfin, quand on voit qu'avec le deepfake, là... on peut reproduire des personnages réels, leur donner un autre discours, transfigurer Trump. Alors, j'ai vu le deepfake de Trump, il n'est pas encore parfait, c'est-à-dire qu'on peut soupçonner que c'est pas Trump, mais enfin, dans un an, ce sera parfait.
Ce sera corrigé.
Donc, ouais. le monde de l'illusion généralisée, c'est assez terrible, mais en même temps, je crois que c'est la réalisation de notre être, c'est-à-dire qu'on est tous composés de beaucoup de fiction, beaucoup d'imaginaire, et c'est le cas de notre héros, qui est tout le temps perdu dans ses rêves, dans ses fictions, dans ses souvenirs, et voilà, notre monde moderne, c'est la réalisation de notre part de fiction.
Avec violence.
Avec violence, oui, là il se trouve qu'effectivement, ça part d'un fait divers, qui est violent, mais le sera-t-il jusqu'au bout ?
Alors merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. J'ai eu envie de vous réunir autour de cette violence du monde que vos deux romans expriment dans deux univers différents. Mais cela reste la violence du monde, la manipulation des uns sur les autres. Qu'est-ce qui vous a décidé, l'un et l'autre, à faire de ces sujets la manière d'un roman ? Est-ce que c'est dû au fait, peut-être, c'est la deuxième partie de la question, que vous pensez que la littérature peut-être non pas changer un peu les choses, mais aider à résister. Nina Bouraoui.
Oh, je pense que la littérature est le regard de l'écrivain aussi. Je crois que un écrivain va peut-être regarder d'un autre point de vue, traversé peut-être par ses propres peurs, ses propres obsessions, par son don du beau et de la poésie. Et je crois que nous restituons le monde, non pas comme des journalistes justement, mais avec cette dimension émotionnelle et qui nous rattache à nos souvenirs. C'est vrai que moi je suis très sensible à la violence du monde parce que j'ai grandi dans un pays violent. Et que la violence est à chaque fois l'Algérie. Et à chaque fois la violence de ce monde-là, aujourd'hui, comme on l'entend, on les entend, ce ne sont plus des bruissements, ce sont des grondements. On entend la colère. On entend depuis un an cette révolte sociale et on entend aussi la voix des femmes qui soudain parlent et cette voix, cette parole n'est plus moquée, elle est entendue, elle est crainte et elle est acceptée enfin. Alors je crois qu'aujourd'hui, peut-être de plus en plus, est-ce le devoir, parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de devoir, et puis je pense que notre pouvoir est quand même assez limité. Mais en tous les cas, c'est un devoir peut-être d'entendre et de dire à notre façon cette violence-là. Alors, elle ne disparaîtra pas pour autant, mais c'est un témoignage.
En tout cas, on rompt un peu le silence. On met des mots, justement, aussi sur ce qui était des silences. Vous parliez de bruit, mais il y a eu aussi beaucoup de silence.
Beaucoup trop.
Et ça aussi, c'était violent. Nina Bouraoui parlait de devoir, Fabrice Imbert. Est-ce qu'un écrivain, pour vous, a le devoir d'être aux premières loges de la société pour en percevoir la colère ? Peut-être aussi aux premières loges, mais peut-être en étant du côté des dominés pour les faire entendre ?
Alors, de façon générale, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nina Bouraoui juste avant. Moi, la position de mon livre, déjà, elle est peut-être un petit peu différente dans la mesure où, quand même, dans cette histoire de réalité et de fiction, nous, les écrivains, nous sommes quand même du côté de la fiction. C'est-à-dire que j'ai écrit une histoire et qui, si possible, soit la plus fascinante possible pour le lecteur, tout en disant qu'il faut se méfier des histoires, parce qu'en fait, Le cours du monde actuellement, c'est de raconter des histoires. Si on est un homme politique, c'est de raconter une histoire de son action. Mais un pays aussi se raconte une histoire sur ce qu'il est. Et en quelque sorte, tout est récit. Je ne crois pas que ce soit nouveau. La Révolution française a fait le récit d'elle-même. Mais clairement, nous, on a atteint une dimension dans le récit et le récit de tout qui est absolument dominante.
Chacun, pour se présenter d'ailleurs, doit raconter son propre récit.
Exactement. Voilà, et je crois que les dominants et dominés racontent aussi des histoires.
Mais sur la question de l'écrivain et de la façon dont il regarde le monde, est-ce qu'il doit être justement au cœur de la société, en surplomb,
Comme justement, là, dans cette histoire de fiction, je suis précisément du côté de la fiction, disons que j'ai une position particulière à l'intérieur de ce livre. Maintenant, sur cette idée d'être du côté des dominés, alors je crois que c'est une histoire finalement plus compliquée que ce qu'on dit d'habitude. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends souvent, et mon métier d'enseignant, c'est de...
Vous enseignez le français.
Oui, j'enseigne le français, et c'est d'étudier les livres, et très souvent, je peux lire dans les critiques universitaires et autres, c'est un livre qui donne la parole aux opprimés. Mmh. Ce qui, par exemple, Céline au Voyage au bout de la nuit est tout à fait clair. Mais en réalité, je suis pas du tout sûr que ce soit une des fonctions de la littérature si on regarde l'ensemble des productions littéraires. Mmh. Et il faudrait pas transformer ça en cliché, je prends la parole pour les opprimés. En fait, simplement, la littérature parle en général des individus. Et à l'intérieur de ces individualités, il y a effectivement toutes les failles, toutes les faiblesses qui peuvent apparaître.
Alors, il y a eu, le 19 juillet 2016, dans la revue Trends in Cognitive Sciences, tendance des sciences cognitives, une étude sur la lecture de romans. Et en fait, que disait cette étude ? C'est que la lecture du roman stimule l'empathie, et à tel point, d'ailleurs, une historienne qui s'appelait Lynn Hunt avait rappelé le déferlement d'empathie qu'avait suscité la nouvelle Héloïse de Rousseau, son roman épistolaire, donc 1761. 115 éditions en français, quand même, publiées avant 1800. Et tout le monde, des membres du clergé, des militaires, des gens ordinaires, avaient écrit à Rousseau pour leur décrire les sentiments, le feu qui les dévorait en lisant les nuits passées d'émotion en émotion, en lisant la nouvelle Héloïse. Est-ce que c'est quelque chose, l'empathie, que vous cherchez à développer chez vos lecteurs ? Parce que quand je vous lisais Fabrice Imbert, je pensais à Philippe K. Dick, et vous savez, ce roman qui a été adapté par Ridley Scott sous le nom de Blade Runner. Le vrai titre, c'était « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Et il était question, justement, de chercher l'empathie qui avait totalement disparu sur une terre absolument dévastée. Voilà, il fallait, et donc avoir un vrai mouton, et pas un mouton électrique, un vrai animal, c'était pouvoir, finalement, renouer avec l'empathie. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez pour permettre à vos lectrices, à vos lecteurs, de prendre conscience d'une situation qui ne va pas, de jouer sur cette empathie ? Que permet le roman ?
Je sais pas si c'est conscient. Moi, je crois que c'est extrêmement naturel. Peut-être parce que je suis du côté de la douceur, mais de la douceur armée. C'est-à-dire que je crois que...
Bel oxymore, peut-être pas d'ailleurs.
Quand on peut tout faire entendre et tout faire comprendre, parfois, souvent, avec douceur. Moi, j'ai toujours eu quand même une sorte de militantisme dans mes romans, et j'ai beaucoup parlé d'identité sexuelle, amoureuse. Et lorsque je me déplace, que je rencontre mes lecteurs, je me rends compte que finalement, lorsque mon public n'est pas forcément acquis à ma cause ou est très loin de ma façon d'être et de ma nature homosexuelle, j'aime bien dire ça. Je crois que nous avons une nature hétérosexuelle, une nature homosexuelle. Et je me suis aperçue que justement, oui, l'empathie par la douceur. Alors moi, c'est vrai que les livres que j'écris sont, j'espère, humanistes et sont du côté des êtres, sont du côté des fragiles. Mais ce n'est pas un choix. Peut-être parce que moi, j'ai été dans le camp de la marginalité, parce que je suis métisse, parce que je suis une femme, parce que je suis homosexuelle. Et mes livres...
Écrivain,
ça fait beaucoup de fragilité. Et je crois que c'est mon empreinte que les livres soient forcément autobiographiques ou autofictionnels, d'ailleurs je n'aime pas trop ce mot,
non.
Mais
Qu'est-ce qui vous déplaît d'ailleurs dans le...
Parce que je trouve que c'est réducteur. Moi, j'ai commencé, enfin, quand j'ai écrit très très jeune, j'étais publiée très jeune, et j'ai eu la chance de rencontrer Marguerite Duras très jeune. Mmh. Et c'était, voilà, ce qu'elle faisait, le son, la musicalité, la sonorité. Je me suis battue, je me bats encore pour ça. Écrire, oui, mais écrire en ayant une marque reconnaissable. Mmh. Voilà, ça c'est très important. Alors la douceur, l'empathie, c'est vrai que pour moi c'était très naturel parce que j'ai fait partie de ceux qui ont peut-être souffert un peu dans l'enfance, de par ma différence, dans l'adolescence. Alors on développe ainsi peut-être une plus grande tolérance à l'autre ou un regard plus doux, plus enveloppant.
Qui du coup se transmet ou se traduit en tout cas en mots.
Mais mes lecteurs me ressemblent, je suis heureuse quand je les rencontre. Je me rends compte qu'ils sont, nous sommes assez, assez semblables.
Doux et armés. Et vous, armé. Fabrice Imbert ?
Alors je vais répondre à ça, mais d'abord sur la vocation de Nina. J'ai lu un article il y a très longtemps, j'ai moi qu'elle me confirme ça parce que ça m'a fasciné. Alors c'était il y a très très longtemps, je pense que je l'ai lu il y a 15 ans, mais ça m'avait fasciné. Ça racontait que votre institutrice, genre CE2 ou CM1, avait appelé votre mère pour vous dire que c'était incroyable, que vous écriviez des pages et des pages. C'était vrai ça ?
Ah oui, c'est vrai, moi j'invente rien. Et puis surtout, je peux lire parce que j'étais vraiment un cancre. Donc c'était le seul territoire où, non pas j'excellais, mais où j'étais différente. Et j'étais si investie parce que j'étais privée de parole, j'étais une enfant assez renfermée dans ma forteresse intérieure. Et l'écriture a été le seul moyen de dire et peut-être la seule porte ouverte dans ce pays où une petite fille n'était pas forcément libre. On vivait beaucoup en un peu cloîtré dans les appartements, dans les maisons, dans les voitures. On ne marchait pas. Et l'écriture, pour moi, a été tout d'un coup une sorte de jet de lumière et de soleil dans cette forêt noire où j'étais où j'étais un peu écrasée. Et en effet, elle s'appelait Madame Croze. Elle était très belle en plus. J'étais folle d'elle. Certainement pour la séduire. L'histoire est devenue une vingtaine de pages au lieu de deux feuillets.
Ah oui, d'accord. En tout cas, j'avais...
C'est la vérité.
C'est confirmé.
J'avais adoré cette
vérité ou fiction, vérité.
Parce que c'était de l'ordre du destin, quoi.
Un mot sur l'empathie.
Sur l'empathie. Et sur votre empathie. Oui. Alors effectivement, je pense que c'est pas...
J'en ai, mais...
Beaucoup.
C'est pas forcément conscient, mais clairement, il y a quelque chose de ça.
Dans cette
sensibilité, voilà. Dans cette sensibilité extrême qui est développée à travers la littérature... Et qui, je crois, développe une vraie fragilité chez les gens. C'est-à-dire que j'ai le sentiment quand même que les êtres qui écrivent et les êtres qui lisent énormément ont une fragilité initiale, mais j'ai parfois le sentiment que cette fragilité se développe à travers l'exercice même de l'écriture et de la lecture. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de fragilité.
C'est drôle de dire ça, parce que fragilité, on pourrait dire de sensibilité, de perméabilité aux choses, ouverture d'esprit, très très grande, j'allais dire, oui, je suis en train de toucher ma main, la peau extrêmement réactive. Mais pourquoi ce serait fragile, ça ?
Parce que je suis totalement d'accord avec l'idée de perméabilité. Ouais. Et j'ai l'impression qu'avec l'écriture et la lecture, on est vraiment traversé par les choses.
Pourquoi ça ne rendrait pas plus fort pour... C'est sur cette notion de fragilité, d'ailleurs, qui a été développée aussi par... Vous avez dit fragilité, Nina.
Oui.
Mais vous avez tout
pourquoi
à fait...
Pourquoi ça ne serait pas une force ?
Exactement, ça pourrait tout à fait être une force. Et je pense que ça dépend beaucoup des individus. Mais par exemple, il y a quelque chose qui me frappe chez les adolescents qui lisent énormément. Donc je ne parle pas des gens qui lisent un peu ou des gens qui lisent beaucoup, mais ceux qui passent leur temps dans les livres, ce qui a été mon cas à l'adolescence. Et en fait, ils sont dans une bulle de protection. Et j'ai vu ça une fois chez une élève qui effectivement était une très mauvaise élève, mais sa forme de protection vis-à-vis des autres, c'était de s'enfoncer en permanence dans un univers de fiction.
Qui en même temps est un instrument de connaissance énorme sur la psychologie des êtres.
Exactement. Le déchiffrement, je trouve que le déchiffrement psychologique des êtres est développé d'une façon incroyable par la lecture et l'écriture. C'est vraiment l'expérience venant, j'ai l'impression parfois de pouvoir déchiffrer les gens en quelques minutes.
Sommes déchiffrés.
Attention
c'est
à
inquiétant.
Nous. Attention à nous.
Attention.
On continue avec vous, Fabrice Imbert, et vous, Nina Bouraoui. On commence par Otage, justement, au pluriel. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
We
Pink Floyd, Another Brick in the Wall, c'est le choix de Nina Bouraoui qui publie Otage au pluriel. C'est chez La Thèse. Pourquoi ce choix musical? On parlait de l'enseignement tout à l'heure.
Oui, mais j'adore. C'est un morceau qui me suit depuis très longtemps. Depuis, je pense, l'enfance, c'est une révolte. The Wall, c'était aussi sur l'emprisonnement mental, comment en sortir. Et puis ce mur, Sylvie Meyer construit un mur sans cesse entre elle et son mari. Et puis son patron la force encore à être derrière ce mur qu'elle va faire voler en éclats. C'est la révolution. Moi, je suis quelqu'un d'assez révolté. Je n'aime pas l'injustice. C'est un peu idiot et bené de dire ça, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut toujours continuer à le dire. Ne jamais baisser la tête, le visage, les épaules. Se battre, il faut se battre. Et peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais je pense que Fabrice aussi se bat. Et puis, on disait tout à l'heure, on parlait de fragilité, mais nous savons qu'être un écrivain, c'est parfois compliqué, difficile. Nous savons l'angoisse aussi que cela peut représenter. Et la représentation, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que les livres auront toujours cette place-là? Moi, je sais que parfois, ça m'effraie. Évidemment, je ne cesserai pas le combat. En revanche, j'ai le projet d'écrire encore de plus en plus. Et ça me rassure.
Mais vous avez cette crainte, c'est vrai que...
Oui, j'y pense souvent parce que... Peut-être, je me dis un jour, on sera ringard. Peut-être le livre. Je ne crois pas. Je ne veux pas y croire.
C'est pas que la forme est parfaite, au fond. C'est vrai, cette forme, il n'y a pas besoin de recharger les piles. On peut l'emmener partout.
Elle est simple.
Elle est simple.
Et puis elle est belle. Ouais. Et puis voilà. C'est le dernier objet solide dans une maison de culture.
Vous pensez quoi, Fabrice Imbert? Le dernier objet solide, c'est pas mal.
Alors sur Pink Floyd, d'abord, parce que ça m'a frappé ce choix, parce que mon père, lorsque j'étais enfant, écoutait très très peu de musique, mais quasiment pas, et il y avait deux seuls disques qui tournaient en permanence. C'était Il est libre Max, je sais pas de qui c'est, mais c'était
Hervé Christiani.
Et particulièrement quand il était dans sa grosse voiture et qu'il allait trop vite, c'était Il est libre Max. Et l'autre qu'il aimait écouter dans le salon très fort avec les enceintes, c'était Pink Floyd de The Wall. Donc c'est vraiment un choix, oui, qui m'a frappé, ouais. Et je trouve que c'est un excellent choix. Ouais. Et quant au livre, alors j'ai la même angoisse. Et il y a quelques années, certaines nuits, je me suis même réveillé au milieu de la nuit en songeant à ça. Ça me faisait carrément peur. Voilà, qu'il n'y ait plus de lecture. Alors qu'effectivement, bon, mais on a mal placé pour en parler. C'est pour moi un instrument parfait, idéal, et effectivement, ça échappe pour le coup totalement aux piles.
Vous êtes les mieux placés. Un petit mot quand même, Nina Bouraoui, vous avez été en lien avec le monde de la musique, vous avez écrit d'ailleurs des chansons pour Sheila. J'ai vu. Et les Valentins, même Céline Dion,
Garou. Ouais. Alors Sheila, en fait, la chanson était pour Johnny, et puis il l'a pas prise finalement. Ça s'appelait une arrière-saison, mais Sheila l'a reprise très bien, très bien chantée.
Et qu'est-ce qui vous attirait dans cette forme d'écriture qui est autre que la forme romanesque?
C'est ultra compliqué, ça rend parfois hystérique, c'est très compliqué d'écrire des chansons. En fait, l'histoire, c'est que lorsque j'ai eu mon Renaudot, Guillaume Durand m'avait invité une seconde fois. Il y avait Yannick Noah sur le plateau, et ce soir-là, Jean-Jacques Goldman regardait l'émission. Il cherchait des auteurs pour Céline Dion, mais des auteurs, plutôt des romancières pour changer. Il voulait faire un album consacré à des femmes et des textes de femmes. Donc le lendemain, il appelle Jean-Marc Roberts, qui était mon éditeur à l'époque. Il lui dit, voilà Jean-Marc, on est très intéressé. Et Jean-Marc dit oui. Et puis Jean-Marc m'appelle et me dit, voilà, tu vas écrire pour Céline Dion. Je dis, mais je n'ai jamais écrit de chanson. Il me dit, oui, mais et c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis Céline Dion, ça représentait quelque chose pour moi. C'est une espèce de travailleuse acharnée, de superstar. Et donc, pendant un mois, j'ai cherché. Puis en 10 minutes, j'ai écrit Immensité, qui est devenu un standard. Et puis d'autres chansons, après, on a collaboré. Et le réalisateur et le musicien avec qui je travaillais, après, c'est un réseau, vous savez. Puis il y a eu Sheila, il y a eu Garou.
Mais dans l'exercice, c'est intéressant. Enfin,
c'est intéressant parce qu'il faut faire très court. C'est très dur pour un écrivain d'écrire des chansons parce que nous, on peut voir loin et s'étirer. Une chanson, il faut faire. Alors, les rimes, ça peut être, je parlais de ringardise, les rimes, ça peut être très ringard. Donc, c'est compliqué. Et puis, il faut une émotion en 3 minutes. C'est un défi.
L'empathie aussi. Alors, autre immensité, c'est celle d'Otage avec un S, je le disais, qui reprend l'une de vos pièces de théâtre qui a été jouée en 2015. On y découvre Sylvie Meyer, elle a 53 ans, elle a 2 enfants, elle travaille à la Cagex. Son boulot, c'est de veiller au bon fonctionnement du matériel. Elle veille sur ses petites abeilles. Elle a été quittée par son mari. C'est une bonne chef de ruche, puisqu'il est question d'abeilles. Mais son patron lui demande de repérer, en fait, qui, en gros, va devoir être viré parce qu'il faut, il a décidé, en tout cas, de mettre des gens sur le côté. Est-ce qu'elle va trahir? Est-ce qu'elle va faire des listes? Eh bien, elle se rebelle, il va se passer quelque chose, mais on ne dit rien, on a promis de pas le dire. Quelque chose de fracassant, en tout cas, il y a un passage à l'acte, ce qui sera défini d'ailleurs par le patron comme un petit craquage. Il dit ça, voilà, on pourrait dire burn-out, un petit craquage. J'en dis pas plus en tout cas. J'ajoute que ce passage à l'acte aussi va déclencher une réminiscence, en fait, un souvenir qu'il n'avait jamais quitté et qui est lié à son corps et à l'adolescence. C'est donc au départ un texte de théâtre. On va en lire un extrait là très très vite. Je vais juste vous demander ce qui vous a donné l'envie de le redéployer, puisqu'au fond il était déjà écrit pour le théâtre. Pourquoi on fait un roman? Qu'est-ce que le roman apportait qui n'était pas, en fait, dans le texte?
Il a apporté... alors, je n'ai pas du tout retravaillé la partie qui a été dite, parce que comme c'était un monologue, certes, il s'adaptait au théâtre, mais il pouvait aussi demeurer en tant que récit ou part de tout petit roman. Ce qui m'a intéressé, c'est de le prolonger pour dire le passé, pour éclairer le présent de Sylvie Meyer, en allant chercher les éléments décisifs de son passé que elle a enfoui, raconter son enfance, raconter le faux bonheur de ses parents, raconter... Il est assez triste sur le constat de l'amour, comment les liens se délitent. Et
désaimé après avoir aimé.
Exactement. Et c'était, ça lui donnait plus de densité. Tout d'un coup, cette femme avait... avait une mémoire et cette mémoire, moi je suis fascinée par l'inconscient, la psychanalyse, la parole, ce qu'on dit, ce qu'on tait, ce qui ressurgit, comment nous sommes instrumentalisés parfois par nous-mêmes, comment nous sommes nos propres ennemis et finalement nous sommes otages de nous-mêmes souvent.
On va écouter un extrait d'Otage. Elle a été arrêtée et donc le passage suit cet interrogatoire en fait, et en fait on la jette en prison.
On est entré dans un petit bureau. Les murs étaient d'un blanc sale. Ils m'ont jeté sur une chaise. J'étais à leur merci. J'en tirais une certaine satisfaction de ne pas me plaindre, de ne pas me défendre. C'était comme du mépris. Ils ont pris mon sac, l'ont vidé sur le bureau, comme ça, sans rien chercher, juste pour me déstabiliser. Puis l'un d'eux a sorti un petit sachet en plastique d'un tiroir pour y mettre mon téléphone portable, mes clés et mon portefeuille. Il a laissé mon rouge à lèvres, une mini brosse à cheveux, mon poudrier et le pinceau qui va avec, deux lettres, un ticket de pressing. J'en avais plus rien à faire de mes clés de maison, de voiture, de ma carte de crédit, des quelques euros que devait contenir mon portefeuille, et je ne voulais appeler personne. Je voulais rester là, dans cette nouvelle maison, glauque, mais moins que la mienne qui ne m'appartenait plus. Je n'étais plus Sylvie Meyer, et je ne voulais plus le redevenir. Une page se tournait, et je me sentais bien. Ils m'ont demandé, à nouveau, de décliner mon identité, ce que j'ai fait. Ils ont pris mes empreintes, m'écrasant les doigts pour bien me faire comprendre que c'était eux qui faisaient la loi, et pas moi. Je n'avais pas peur, ils l'ont compris. Ça les énervait encore plus. Puis on a quitté le bureau, pris un couloir assez long qui me semblait devenir de plus en plus étroit. C'est là que je me suis souvenue que je n'avais pas mangé depuis très longtemps. Je n'ai rien dit, je ne voulais rien leur demander. Le plus brutal des deux m'a prise par la taille et m'a poussée derrière une porte coulissante, vitrée, avec deux verrous, en disant « Tu as la nuit, voire plus, pour réfléchir, connasse. » J'ai retrouvé le puits, je me sentais mieux, je me suis endormie.
Merci Nina Bouraoui. Donc extrait d'Otage, on sent à vous lire la matérialité justement de cette écriture qui semble, comme vous le disiez tout à l'heure, tissée d'une sorte de douceur et de violence, cette douceur armée dont vous parliez tout à l'heure.
Oui.
Je vous cite à nouveau, « La violence me pénétrait, je n'entendais plus mes fils, ni les mots, ni les voix, tout glissait sans rester. La violence poussait, 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 et elle a éclos d'un coup quand, un beau matin, Victor Andrieux, donc c'est le patron, m'a convoqué dans son bureau. » C'est vrai que par rapport à cette veine auto-fictive, vous n'aimez pas le terme, mais disons d'écriture de soi, même si on écrit toujours à partir de soi, qui mêlait les souvenirs de l'Algérie, de votre enfance, la découverte de votre homosexualité, dont vous avez beaucoup parlé, on en a parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'un des thèmes aussi du livre de Fabrice Imbert. On a l'impression que vous faites davantage ici œuvre politique, en fait. Vous mettez justement, par exemple, sur le... Vous faites un lien entre l'urgence économique, la pression économique et l'urgence et la pression amoureuse. Vous avez changé ou vous êtes devenu encore plus politique qu'avant? Ça l'était hein, déjà.
Oui, je crois que je l'étais, mais de façon plus cachée, plus peut-être un peu plus auto-centrée, même s'il est compliqué aussi parfois de parler de son identité sexuelle et qu'il faut beaucoup de courage pour l'affirmer encore aujourd'hui quand même, parce qu'il faut toujours rendre des comptes et... une sorte d'aveu à dire oui, je suis ainsi. Mais j'ai écrit beaucoup, j'ai écrit peut-être pour me libérer de quelque chose, mais surtout pour les adolescents. Moi, j'ai été une adolescente où je rasais les murs au lycée, on m'avait dénoncé. Enfin, ça, je m'en souviens très bien. Alors, si l'écriture a cette petite mission d'éclairer
les
solitudes.
Vous avez dénoncé, vous pouvez rappeler pourquoi?
On m'avait dénoncé parce que j'étais amoureuse d'une fille et qui n'assumait pas et en fait qui a renversé. Et il y a eu quelque chose après d'horrible parce que moi, je l'ai redénoncé. Et j'ai été lâche, j'ai été odieuse, j'ai été homophobe. Mais c'est, voilà, hélas, parfois l'aventure des homosexuels. Mais pour revenir à cette dénonciation sociale, peut-être parce que aujourd'hui, j'ai passé la cinquantaine, alors peut-être que je me sens légitime. Parce que je suis intéressée par ça, parce que je regarde beaucoup le monde, parce que je ne vis pas en vase clos, je ne vis pas dans mon milieu, je ne fréquente pas d'écrivains, je suis...
Sauf ce matin.
Voilà. Sauf ce matin, mais j'adore accompagner des écrivains. Mais ce qui se passe dans la rue m'intéresse. Les écrivains ne sont pas à l'abri, ne sont pas à l'abri de la précarité, ne sont pas à l'abri de la peur, ne sont pas à l'abri aussi...
De l'absence de liberté,
de la pression d'un éditeur, nous le savons très bien.
Et de la société.
Et de la pression, de l'argent, du manque d'argent.
Précisément, oui. Nina Bouraoui, c'est un livre, on l'a senti hein, quand vous avez lu, où tout est travaillé, il y a une simplicité, mais une grande densité aussi. C'est un livre sur le corps abandonné, le corps de cette femme abandonnée, sur le corps meurtri aussi de Sylvie, sur le corps aussi qui se venge à travers un autre corps. J'en dis pas plus. Est-ce qu'écrire, c'est aussi une manière de se réapproprier pas seulement sa liberté, on en a parlé, mais aussi son corps? Et quand on écrit, est-ce qu'on fait pas ça?
Certainement. Je crois qu'on ne peut pas dissocier. Le corps est sans cesse investi, important, analysé. Et puis, il y a... c'est pas de l'obscénité, mais l'écriture permet l'oubli de la honte, l'oubli du tabou. Je trouve ça très intéressant.
Quand on travaille les mots, on sent ça, cette réappropriation ou cette façon de laver son honneur, peut-être, puisque vous parliez
de l'oubli de l'honte. Laver son honneur. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est très juste de laver son honneur, de défendre son corps qui a peut-être été maltraité, ou de défendre le corps plus invisible, plus anonyme, le corps des hommes et le corps des femmes, parce que ce livre, je tiens à le dire, n'est pas du tout un réquisitoire contre les hommes,
du tout. Non. Mais c'est vrai que très vite, on glisse de l'oppression économique du monde du travail au souvenir terrible de l'oppression du corps, en fait, qu'a subi votre personnage. Et vous écrivez, Nina Bouraoui, il est là le grand malheur des femmes, la vulnérabilité. On restera toujours sous le corps des hommes. Ils auront toujours le dernier mot. Un homme n'a jamais peur. Quand je parle de la peur, je parle de la grande peur. Celle qui ne nous quitte pas, nous les femmes, dès l'enfance. La peur du viol. Au fond, la liberté n'existe pas. Quand on est une femme, il y a toujours le danger des hommes, la violence des hommes, la menace des hommes. C'est aussi un des enseignements du livre, en tout cas, si on se met dans la peau de Sylvie. Et dans vos mots à vous.
Oui, alors les hommes n'échappent pas à la violence, pas du tout, c'est une autre forme de violence. Les hommes n'échappent pas au viol non plus. Mais les femmes, une petite fille, très vite, on lui apprend à faire attention à la rue, à l'inconnu, à la nuit. On nous intègre cette histoire de la violence.
Ça unit les femmes, ça ?
Je crois que oui.
De conscience ?
Oui, de conscience ou inconsciemment. C'est vrai, quand je dis nous sommes sœurs de viol ou de la peur du viol, si on se réunit entre amis, entre femmes, on aura toujours une histoire commune dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus tard, d'une situation très indélicate avec un homme, dangereuse voire tragique. Mmh. C'est ça qui nous unit. C'est terrible, hein. Il n'y a pas de jugement moral, c'est un fait, c'est ainsi, parce que c'est le corps, c'est corporel.
Fabrice Imbert, quand on entend Nina Bouraoui, écrivain, dire en fait voilà, les femmes sont unies, réunies par cette espèce de menace du viol, et il se trouve que ce viol, il est souvent opéré par les hommes. Est-ce que c'est difficile à entendre?
Écoutez, en fait, je crois que MeToo a révélé beaucoup de choses, et pour moi, qui suis sans doute un niais, ça m'a quand même ouvert tout un monde. Je le dis sincèrement, voilà, toutes ces pratiques...
Comme écrivain aussi?
Peut-être pourriez, comme écrivain, mais d'abord en tant qu'homme. Et voilà, on est à la fois des hommes et des écrivains. Mais j'ai trouvé ce qui était raconté tout à fait incroyable. Enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de marques de domination masculine de cette façon-là, quoi, qui avait autant de violence, autant de pression. J'ai trouvé ça complètement délirant. Et voilà, je suis moi-même un homme et pardonnez-moi, j'ai jamais forcé une fille, j'ai jamais violé. Je pense pas que mes camarades aient violé. Mais en revanche, il y avait quelque chose qui me frappait beaucoup lorsque j'avais la vingtaine. C'est le moment, voilà, on découvre les filles, on va avec pas mal de filles. Et plusieurs d'entre elles avaient été violées pour leur premier rapport. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'était vraiment étonnant, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, hein, je m'étais dit à la fin, mais ça fait quel pourcentage? Et je crois que à peu près 15% des filles avec lesquelles j'étais allé avaient été violées à un moment. Mais alors déjà, je m'étais posé beaucoup de questions. Mais en fait, MeToo a mis tout ça sur la place publique. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de complètement incroyable avec MeToo.
Il est question d'une autre forme de violence. Il est question d'homosexualité, d'ailleurs, dans votre livre, puisque Adam et Ethan ont eu une sorte d'éblouissement homosexuel, d'ailleurs dans une grotte. toute la symbolique des deux corps voilà, unis dans la nature. On parlait de la nouvelle Héloïse tout à l'heure, on y est presque. Ça s'appelle « Le monde n'existe pas », on en parle dans un instant, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Sinéad O'Connor, « Fire on Babylon ».
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Fire on Babylon de Sinéad O'Connor, c'est le choix de Fabrice Imbert. Il est dans le temps des écrivains avec Nina Bouraoui, qui publie Otage chez La Thèse. Fabrice Imbert, Le monde n'existe pas, c'est chez Gallimard. Pourquoi ce choix musical ?
Alors, d'abord parce que j'aime la voix de Sinéad O'Connor et parce que j'adresse son mysticisme. Il y a quelque chose voilà, d'un peu forcené dans son appréhension de la vie et de la musique. Et en plus, j'adore les aigus à l'intérieur de sa voix.
Très belle réponse, voilà. Il est question de voix, hein. On a parlé de voix et de rompre le silence. Alors vous êtes, Fabrice Imbert, je le rappelle, auteur de L'Origine de la violence, prix Orange du livre, de La fortune de Sylla, prix RTL Lire. Et si l'on devait vous présenter, vous résumer, vous êtes l'écrivain expert de la violence. Dans L'Origine de la violence, il s'agissait du nazisme. Dans La fortune de Sylla, de la mondialisation de la finance. Dans Avant la chute des cartels de la drogue, dans Éden Utopie du terrorisme d'action directe, il y avait d'autres choses mais on en parlait beaucoup. Et maintenant donc c'est la violence des rumeurs, les violences de la vérité qui n'est qu'illusion, ou l'illusion qui se présente comme la vérité, des écrans aussi. On a quitté les rives de la Cagex de Nina Bouraoui pour se retrouver aux États-Unis avec donc Adam, votre personnage, qui adore les écrivains, qui est devenu journaliste à cause d'un certain nombre d'écrivains journalistes comme Orwell, comme Camus. Quand le roman commence, on est à Times Square et sur les écrans, que voit-il Adam ? Eh bien, le visage et la silhouette de celui qui a été son ami 20 ans auparavant, qui était la star du lycée, qui était une sorte d'ange blond, de demi-dieu, dit-il, et qui est accusé, qui est recherché d'ailleurs par la police pour le meurtre de Clara Montes, une jeune Mexicaine qui l'aurait violée, on en parlait tout à l'heure, et tuée. Et il n'y croit pas, il ne croit pas à la culpabilité d'Ethan, Adam, et comme il est journaliste, il travaille au New Yorker, il décide de retourner dans sa jeunesse, à Dresden, dans le Colorado, pour enquêter sur ce qui s'est passé. Le sujet, en plus, passionne l'Amérique, il occupe la presse, les journaux télévisés, alors qu'aucun fait n'est établi, alors que le corps de la victime n'a pas été retrouvé, que le présumé coupable se cache dans la nature. Et c'est cette double absence, celle du corps, celle du coupable, qui fascine cette Amérique et qui fascine les témoins que vous faites défiler à la barre de ce roman où le passé, comme chez l'héroïne de Nina Bouraoui, va lui aussi ressurgir pour mettre, on le disait tout à l'heure, à l'épreuve le grand jeu, la grande lutte de la réalité et du mensonge. Et dans cette fiction, qui a pris la forme d'une enquête, vous interrogez le pouvoir des images, la vérité dont on les crédite, naïvement peut-être, puisque au fond, toute représentation doit être interrogée, quelle qu'elle soit, et notamment quand on sait qu'aujourd'hui, tous les montages sont possibles. Vous parlez du deepfake, qui permet de faire dire à n'importe qui, n'importe quoi, uniquement par trucage d'images. Le monde n'existe pas, c'est un théâtre, une suite de faux semblants, se dit-on quand on vous lit. La messe est dite, nous dit votre roman.
Alors sur la présentation par rapport à la violence, je voudrais quand même dire que j'ai beaucoup changé. Parce que, c'est sûr que l'origine de la violence était le produit de mon enfance et de mes années d'enseignement en banlieue où la violence était permanente. Mais je voudrais quand même dire que, voilà, maintenant, le temps a passé, je suis dans des zones extrêmement tranquille, avec des gens très doux. Et je suis père de famille et marié. Voilà. Et donc j'ai beaucoup changé quand même sur la violence.
C'est pas un roman très doux. En tout cas, quand on nous dit que la réalité et la fiction se confondent de plus en plus, on le sait, mais alors on en a une démonstration absolument éclatante avec votre roman. Est-ce que nos existences sont en passe de devenir majoritairement des fictions? Est-ce qu'il faut acter ça? Voilà.
Je crois véritablement. C'est-à-dire que je pense que toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de la fiction. Je pense que cette espèce de réalisation du progrès de l'humanité, c'est une espèce de fiction en nous, c'est des projections. Regardez, par exemple, ce qui est frappant, vous voyez les romans de science-fiction des années 50. Ce sont des projections de fiction. Et ben nous avons réalisé ce que faisaient les romans des années 50. Donc c'est clair que l'humanité fonctionne comme ça, à travers une espèce de projection de fiction. Mais pour la première fois dans l'histoire du monde, on peut faire de la fiction notre réalité. À mesure qu'on s'est éloigné de la nature, jusqu'à apparemment la réduire en lambeaux, eh bien on pouvait davantage étendre ce monde de la projection des hommes, de la fiction. Et donc oui, on vit dans un monde qui est fictionnel. Mais regardez comme aussi nous-mêmes, nous sommes traversés de fiction, comme en tant qu'individu, on est tout le temps à se rêver, à s'imaginer. Et puis, peu à peu, on réalise, si le sort nous aide, cette espèce de fiction qui est à l'intérieur de nous-mêmes.
D'accord, mais par exemple, politiquement, puisqu'on parlait de politique tout à l'heure, si la réalité est une fiction, à quoi vont servir les écrivains? Dans un monde où un chef d'État peut raconter autre chose que la vérité, parce qu'il est question de la vérité dans ce livre. Dans un monde où tout le monde fait de la fiction tout le temps, le boulot des écrivains va être compliqué.
Je pense qu'on peut se transformer en gérant de la fiction des chefs d'État. Ce sera notre travail.
Ils n'ont pas besoin de gérants.
On fera des équipes d'écrivains. Mais les fictions, ils les font eux-mêmes,
pour les fournir en fiction, vous dites.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, je pense. Alors, je vais faire mes anachronismes récurrents. Regardez, au XVe siècle, vous avez, pour organiser la vie des grands aristocrates et des rois, vous avez des poètes qui s'appellent les grands rhétoriqueurs. Moi, j'assimile les grands rhétoriqueurs à des espèces de directeurs de communication moderne qu'ils font sous forme versifiée, mais enfin, c'est de la communication. En réalité, est-ce que quelqu'un, un chef d'État qui organise une espèce de récit de son action, est-ce qu'il pourrait pas faire appel à des écrivains qui gèrent sa fiction? Songez à ce film américain que j'ai jamais vu, mais je trouvais l'idée géniale. C'était un président qui imaginait une fausse guerre afin de se faire réélire. Voilà, cette fausse guerre pourrait être créée par des écrivains. Alors, mais peu importe en fait le rôle des écrivains dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où effectivement la politique se fait à partir du récit, alors ça depuis pas mal de temps, Napoléon était totalement conscient de ça, et les bulletins de la Grande Armée, c'est rien d'autre que le récit de son action, mais ça a été théorisé effectivement par les Américains, par Nicolas Sarkozy, à savoir qu'on allait faire le récit de son action. Mais Obama lui-même a déclaré qu'au début, il disait des choses techniques, et puis à un moment, il a compris que ce que les Américains attendaient de lui, c'était un grand récit. Donc il est clair que oui, la politique, c'est du grand récit.
On va vous entendre, Fabrice Imbert, lire un extrait de cet autre grand récit, qu'est Le Monde n'existe pas. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre, pour montrer un peu les deux tonalités.
D'accord. J'éteins la lumière et je me mets au lit. L'obscurité est totale. Ça, au moins, j'ai réussi à l'obtenir. Le sens se retire du monde. Il n'y a plus que mes pensées, imparfaites, furetantes, obsédantes. Mais bientôt, je sens qu'elles cèdent et reculent comme la marée sur les plages et qu'elles laissent place au sable de la nuit et des sens. Je me laisse tomber sur le sable. Je n'existe plus. N'est-ce pas au fond ce que je souhaite ? Au matin, après 12 heures de sommeil, je me suis senti mieux. Depuis que je suis à Dresden, si peu de temps, le délitement s'opère au cours de la journée. La matinée me lance, puis la matière peu à peu me reprend. Je m'enlise dans la nausée du temps et des choses. Seul le sommeil, avec l'oubli, me libère. Libérer n'est pas un vain mot, parce que je me sens emprisonné dans cette ville, alors que Dresden l'arachnéenne n'est sans doute que le reflet tentaculaire de mes angoisses. J'ai construit et inventé Adam Volman. Christopher Mantle entend malgré moi renaître des cendres du passé comme un triste phénix, une illumination blafarde dont personne ne se soucie. Deux Écossais se trouvent dans un train. L'un dit à l'autre « Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que ce paquet que vous avez placé dans le filet au-dessus de votre tête ?»« Ah ça, c'est un MacGuffin. »« Qu'est-ce que c'est un MacGuffin ?»« Eh bien, c'est un appareil pour attraper les lions dans les Appalaches. » Mais il n'y a pas de lion dans les Appalaches. Dans ce cas, ce n'est pas un MacGuffin. Hitchcock a bâti tous ses films sur un MacGuffin, un but apparent de l'histoire qui en réalité n'est pas du tout le véritable objet de la quête. Ses films sont semblables à des portes qui ouvrent sur d'autres portes, et à mesure que les portes s'ouvrent, elles ne débouchent plus que sur une brume de plus en plus opaque, celle des rêves, des cauchemars et des angoisses. Et si Ethan était un MacGuffin, un simple prétexte scénaristique ? Notre vie n'est-elle pas un MacGuffin ? Le MacGuffin de l'argent, du pouvoir, de la sécurité, de l'amour, de... porte après porte, d'une réalité grimaçante. Ouvre cette porte, celle-là encore, celle-là encore. Oublie la fatigue, oublie le temps qui passe, pousse la porte. La réalité est une fiction, la réalité est une fiction, la réalité est une fiction. J'ai mis de côté ces pensées, et plus modestement, j'ai ouvert la porte de mon appartement.
Merci Fabrice Imbert, Le Monde ne suffit pas. Dernière question avant de nous quitter, vous citez un certain nombre d'écrivains dans ce livre, des écrivains qui, dites-vous, voulaient avoir prise sur le monde, notamment Hemingway, qui mentait sur sa vie. Quel rôle ils ont dans le roman, en fait ? Tout le monde ment, quoi.
Alors, c'est
on a entendu
que...
Nina Bouraoui nous dire peut-être qu'elle a menti, en fait.
Oui, tout le monde ment dans le roman, et c'est vrai que Hemingway a beaucoup menti, mais si vous voulez, pour revenir à notre conversation tout à l'heure sur la fragilité, il y a quand même effectivement des types différents d'écrivains, ceux peut-être qui sont plus dans la fragilité, et ceux qui veulent avoir totalement prise sur le monde, et qui sont quand même un autre type d'homme. Peut-être qu'Hemingway fait partie d'eux, c'était quelqu'un qui cherchait à avoir prise, qui voulait donner l'illusion qu'il avait prise sur la réalité, et en réalité qui était infiniment fragile au point de se perdre dans l'alcool, d'abord pour résister à l'angoisse, et puis ensuite de se suicider.
Et de donner quand même l'illusion qu'il avait maîtrisé sa vie,
c'est ça,
qu'il avait
été
un grand combattant. Un peu comme vos personnages, Fabrice Imbert, bravo à vous. Le Monde n'existe pas, c'est chez Gallimard, et Nina Bouraoui, otage au pluriel. Voilà. On l'est tous. Et c'est publié chez Lattès. C'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lechard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Delphine Baudet à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission en compagnie de Nina Bouraoui et de Fabrice Imbert.